L'hôpital de Villefranche-sur-Saône, toujours paralysé par une cyberattaque, comme l'a été celui de Dax la semaine dernière, tout comme la Mutuelle nationale des hospitaliers. Bonjour Jérôme Billois.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste de la cybersécurité pour le cabinet de conseil Wavestone. Il se passe quoi avec le monde de la santé en ce moment? C'est une cible privilégiée des pirates informatiques?
Alors c'est clair que là, les cybercriminels ont de multiples fois visé le secteur de la santé pour des raisons qui sont finalement liées à leur motivation. Les cybercriminels, ils veulent gagner de l'argent. Donc ils vont cibler des périmètres où arrêter le système informatique va causer beaucoup de dégâts, va causer beaucoup de stress, en espérant finalement que ce niveau de stress fasse payer la rançon qu'ils exigent pour rendre les clés quelque part du système d'information.
Donc il y a l'appât du gain, mais est-ce que on pourrait trouver l'explication aussi dans le fait que c'est un secteur mal protégé ?
Alors, historiquement, c'est sûr que le secteur de la santé, un secteur où on sait les contraintes budgétaires sont très fortes sur tous les métiers de l'hôpital, et donc évidemment le système d'information a fait l'objet d'un sous-investissement sur la cybersécurité depuis plus d'une dizaine d'années. La situation s'améliore, cependant, il y a eu des investissements récemment, mais il y a beaucoup de retard à rattraper.
Globalement, est-ce qu'il y a beaucoup plus, en dehors du domaine médical, est-ce qu'il y a beaucoup plus de cyberattaques en ce moment? Est-ce que la crise les favorise?
Alors les cyberattaques sont en croissance exponentielle. Nos autorités, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, a vu un quadruplement des attaques.
En
c'est
un
pas
an
forcément la crise
fois 4 en un
sanitaire.
An, c'est ça
En un an, oui.
Ah oui.
En un an, fois 4 en un an, effectivement. C'est pas forcément la crise sanitaire ou la crise économique, c'est surtout une structuration de l'écosystème des cybercriminels qui aujourd'hui se sont organisés sous forme de PME du cybercrime, avec des plateformes qui ont des franchisés et qui permet à cet écosystème eh bien de se démultiplier et de générer des gains qui sont malheureusement très très importants.
Et ce sont des PME du crime, comme vous dites, qui sont autonomes, indépendants, où certains peuvent avoir des liens avec des États, être quasi en mission commandée. On sait que, voilà, dans un rapport récent que l'ANSSI, l'Agence de sécurité des systèmes d'information, a publié récemment, sans le dire, mais on devinait qu'il y avait la Russie, par exemple, derrière.
Oui, alors les frontières sont très ténues entre finalement le monde des cybercriminels et puis un certain nombre d'États qui savent utiliser un peu sous forme de mercenaires pour leurs services de renseignement ces mêmes groupes et qui en regard les protègent aussi. On sait qu'un certain nombre de pays, en particulier russophones, d'Europe de l'Est, etc., ne sont pas très coopérants en termes d'investigation cyber, même si là aussi la situation s'améliore, comme l'a montré plusieurs arrestations en début d'année. Il reste quelque part quand même des zones un peu grises dans lesquelles le cybercrime peut prospérer.
Est-ce qu'il y a des cybercriminels français aussi, des groupes français connus ?
Alors il y en a eu. Ils sont, on va dire, moins dans l'actualité ces temps-ci. On a surtout eu des arrestations de personnes qui ont fait, par exemple, des fraudes à l'achat en ligne. Il y avait une affaire qui avait touché des clients de Cdiscount assez fortement. Et on avait aussi hébergé en France des opérateurs de plateformes de marché noir. On se souvient de l'histoire d'une mère de famille ou d'un breton qui faisait fonctionner des sites sur le dark web pour faire de la vente de drogue ou de documents illégaux. Donc les Français sont aussi présents dans la cybercriminalité, mais moins sur ces affaires de rançongiciel et d'attaques étatiques.
Je reviens là à ce rapport de l'ANSSI qui récemment a dit avoir découvert une intrusion massive contre des grandes entreprises et qui a duré même plusieurs années entre 2017 et 2020. Ça veut dire que même de très grosses entreprises, même des entreprises du CAC 40, ne sont pas suffisamment protégées ?
Oui, aujourd'hui, tous les secteurs d'activité, et quelle que soit la taille de l'entreprise, sont touchés par des cyberattaques. C'est vrai que les hôpitaux ou les mairies, on le voit rapidement lorsqu'ils sont touchés. Il y a beaucoup de grands groupes qui sont touchés aussi et qui finalement n'ont pas d'obligation de le rendre public et gèrent la crise de manière très très discrète. Nous, on le voit, on intervient auprès de ces grandes entreprises. On a géré plus de 60 cyberattaques majeures l'année dernière. Tous les secteurs sont touchés. toutes les tailles d'entreprise le sont aussi, et c'est majoritairement dû à finalement un sous-investissement en cybersécurité sur toutes ces années, des systèmes d'informatique qui ont grossi très très vite et qui parfois ont grossi de manière non maîtrisée et qui laissent des portes ouverte pour les cybercriminels.
Est-ce qu'il serait possible aussi que certaines entreprises finalement préfèrent payer parce que ça coûte moins cher que de financer à temps plein une protection, tout un service dédié justement à la lutte contre ces cyberattaques ?
Alors, je pense que personne n'est dans une analyse est-ce que je ferais mieux d'investir en cybersécurité ou de payer la rançon, parce que au-delà de payer une rançon, si vous voulez, ce qui se passe, c'est aussi que l'impact sur l'entreprise, il est majeur, à la fois en termes d'image, à la fois en termes de confiance pour les partenaires, confiance pour les clients. Et puis, il y a quelque chose que je veux vraiment dire ce matin, c'est que on a l'impression que payer la rançon, ça y est, la crise est finie, le lendemain, tout le système va repartir. C'est faux. Nous, on a accompagné l'année dernière des clients, 20% d'entre eux ont décidé de payer la rançon. Eh bien, ceux qui ont payé, par rapport à ceux qui n'ont pas payé, la durée de la crise est la même. Ah oui. En moyenne, elle est de 3 semaines. Parce que même si vous payez, vous allez recevoir une clé qui va vous permettre de débloquer les ordinateurs. Mais il faut passer sur tous les ordinateurs un par un. Et il faut quand même relancer tout le système d'information. Et bien évidemment, il faut resécuriser. Parce que sinon, le cybercriminel peut revenir directement ou d'autres groupes peuvent revenir rapidement si vous laissez les failles qui étaient là initialement.
Jérôme Billois, je voudrais finir sur un dernier exemple assez marquant. Il y a quelques jours là, ou quelques semaines aux États-Unis, il y a des pirates qui ont tenté d'empoisonner le réseau d'eau potable d'une ville de 13 000 habitants à distance via le système d'information pour augmenter les doses de soude caustique. Ça veut dire qu'on peut vraiment frôler la catastrophe parfois.
C'est vrai, c'est un vrai risque sur ce qu'on appelle nos infrastructures critiques, celles qui assurent la distribution de l'eau, de l'électricité, ou les transports encore. Tout ça a été numérisé ces dernières années. Tout ça a été rendu accessible aussi à distance pour de multiples raisons, dont la crise sanitaire. Et c'est vrai qu'il y a un risque, au même titre que les ordinateurs standards sur lesquels on lit nos emails, sur ces ordinateurs qui touchent notre vie quotidienne. Cependant, l'État a quand même bien identifié en France ce risque. Et depuis 2014, on a un texte de loi qui oblige les opérateurs à se sécuriser plus que ce qu'ils ne feraient sur leur système classique informatique. Donc voilà, la situation s'améliore aussi sur ce plan.
Merci Jérôme Billois, spécialiste de la cybersécurité pour le cabinet de conseil Wavestone. Vous étiez l'invité du 5-7. France Inter.